Bienvenidos a este informativo de Radio France. Paris Live with me, today's headlines.
Accent du monde. Philippe Le Caplain.
Bonsoir et bienvenue dans Action du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, c'est avec Elsa Vidal de la rédaction russophone.
Bonsoir, добрый вечер.
En cette journée internationale du droit des femmes, vous ferez le point sur la condition des Russes. Pizemam de la rédaction cambodgienne.
Sousdai.
Et vous nous parlerez, vous, de l'IVG au Cambodge. Et pour la rédaction en portugais, Catarina Falcao, sachant qu'il y a après-demain des élections législatives anticipées et le Portugal qui pourrait basculer à droite.
Bonne nuit à tous.
Ce qui fait la lune de l'actualité avant cela, c'est le Super Tuesday, c'est-à-dire la politique aux États-Unis, avec mardi dernier un certain nombre d'États qui ont voté pour leurs candidats, aussi bien du côté démocrate que républicain. Et puis, Emam, vous nous dites que cet affrontement, finalement, Trump-Biden, intéresse moins qu'on l'imagine, alors qu'on en parle beaucoup, malgré tout. La preuve.
Oui, Philippe, ce scrutin opposant un président impopulaire de 81 ans à son prédécesseur de 77 ans, inculpé à 4 reprises en pénal et qui conteste toujours sa défaite en 2020, ne passionne guère les Américains. Les sondages montrent que les Américains auraient préféré un autre duel que celui entre Biden et Trump. Une des raisons que l'on entend souvent pour évoquer ce manque d'enthousiasme, c'est l'âge très avancé des deux candidats. Un sondage récent de New York Times et du Siena College a révélé qu'une majorité des électeurs de Biden en 2020 considéraient désormais le président sortant comme trop vieux pour être efficace. Nous avons vu ces derniers temps, Philippe, les gaffes répétitives de Joe Biden provoquant des inquiétudes sur sa santé et ses aptitudes à diriger le pays.
Alors justement, Catarina, le problème de Joe Biden, c'est son grand âge.
Oui, exactement. Son problème, c'est que, en fait, Joe Biden a actuellement 81 ans et s'il gagne, il finira son mandat à 86 ans. Il a déjà le record du président en fonction, plus âgé aux États-Unis, même si l'âge signifie en théorie la sagesse, il y a beaucoup de questions autour de sa santé. Pour German Almeida, journaliste portugais et spécialiste de la politique nord-américaine, le comportement des électeurs aux États-Unis reste un mystère pour l'instant.
Eu diria que não vão impedir de chegar à corrida em novembro, vão certamente ser decisivos para a decisão em novembro.
Que vous a-t-il expliqué, Catarina?
Il nous dit que ces deux facteurs, donc l'âge de Joe Biden et comme Pizé a dit, les problèmes aux tribunaux de Donald Trump, sont des gros problèmes pour les élections en novembre. Mais c'est très difficile à dire quel sera leur poids. Les sondages, comme Pizé a dit aussi, montrent que les électeurs démocrates ont très peu envie de voter pour Biden. Mais est-ce que, devant la possibilité d'un nouveau mandat de Trump, ils voteront encore pour l'actuel président?
Et du coup, Pizet, il existe un mouvement très actif qui appelle à refuser la candidature de Joe Biden.
Oui, Philippe, en effet, ce mouvement, alors j'ai aussi un peu perdu dans mes papiers.
Donc ce mouvement s'appelle Abandon Biden et il se propage sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? Vous êtes perdu. Vous dire que je vous aide pas. Et à la suite donc de ces campagnes, plus de 100 000 électeurs aux primaires démocrates du Michigan ont placé dans l'urne un bulletin blanc.
Oui, oui. Et effectivement, à la suite de ces campagnes, plus de 100 000 électeurs aux primaires démocrates du Michigan ont placé dans l'urne un bulletin blanc en février dernier, et des dizaines de milliers d'autres bulletins blancs sont venus s'ajouter lors de Super Tuesday, notamment en Minnesota. Et d'après Hassan Abdesalam, fondateur de ce mouvement, Philippe, ce sont des chiffres incroyables, de quoi provoquer des maux de tête dans l'équipe de campagne du président sortant, car on sait, Philippe, que les résultats de la présidentielle pourraient se décider à quelques milliers de voix près dans une poignée d'États pivots.
Elsa Vidal, les jeux sont donc faits. On sait que l'élection en novembre prochain, finalement, ce sera le match retour.
Exactement. Et depuis mardi 5 mars, depuis le Super Tuesday, il ne fait quasiment plus aucun doute que les deux candidats à s'affronter pour la présidentielle seront le démocrate et l'actuel président des États-Unis, Joe Biden, ou le républicain ancien locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Un scrutin d'ores et déjà déterminant pour la poursuite du soutien politique et militaire des États-Unis à l'Ukraine dans sa résistance à la tentative d'invasion par la Russie. Et malgré les déclarations surprenantes de Vladimir Poutine le 14 février dernier, indiquant qu'il préférerait voir Joe Biden remporter remporter à nouveau la présidentielle en raison de son caractère plus prévisible, il ne fait aucun doute que le président russe, qui devrait être élu le 17 mars prochain, place en réalité tous ses espoirs dans une victoire du républicain.
Et qu'est-ce qui vous fait dire cela ?
Tout d'abord, ses déclarations à l'ex-présentateur vedette de Fox News, Tucker Carlson, lors d'une interview à Moscou, la première à un média occidental depuis le 24 février 2022. Dans cet exercice de plus de 2 heures, qui commence par une longue introduction historique, lors de laquelle Vladimir Poutine a rappelé que l'Ukraine est un État artificiel, selon lui, et que les Ukrainiens se sentent encore russes, toujours selon lui, il se présente comme un dirigeant responsable et ouvert au dialogue. Or, ce dialogue, il ne pourra l'avoir avec une grande facilité que si les États-Unis renoncent à leur soutien à l'Ukraine. Et cela, c'est plutôt notre ami Donald Trump qui pourrait le lui offrir.
Et c'est ce qui est une proposition de Donald Trump, pardon. On peut même parler de menace plus que de proposition.
Oui, la manière dont c'est rapporté par Donald Trump relève plus de la menace à l'intention des autres membres de l'OTAN et en particulier des membres européens. Le 11 février 2024, le 11 février dernier, donc, Donald Trump faisait référence à ses propres propos lorsqu'il était président entre 2017 et 2021 et il menaçait alors de ne pas défendre les membres de l'Alliance qui seraient en dessous de 2% de dépenses du PIB dévolues à la défense, justement, en cas d'attaque de la Russie. Et les Républicains, eux, comme on s'en rappelle, bloquent depuis l'automne dernier le vote d'un nouveau paquet d'aide militaire et financière à l'Ukraine, à la Chambre des représentants. La Maison-Blanche, quant à elle, a qualifié les déclarations de Trump sur ses menaces de ne pas intervenir de consternantes et insensées, en disant « encourager les invasions par des régimes meurtriers dans les pays de nos alliés les plus proches est épouvantable et insensé. Cela met en péril la sécurité nationale américaine, la stabilité mondiale et notre économie nationale. »
Et du côté de l'Alliance Atlantique maintenant, qu'est-ce qu'on dit ?
Même condamnation, Philippe, du côté de l'Alliance Atlantique, dans la mesure où tout le principe de la dissuasion de l'appartenance à l'OTAN repose sur le caractère automatique de la défense. Et c'est pourquoi Jens Stoltenberg a condamné ces propos de l'ancien président des États-Unis. Nous espérons, dit-il, que la participation à l'Alliance sera déterminante et effective en cas d'attaque sur l'un de ses membres.
Alors Trump, on vient d'en parler, Biden également, cette affiche ravit certains, Katharina, mais ce n'est pas le cas pour beaucoup d'autres.
Non, au contraire de 2020, où les Américains étaient très polarisés, enthousiasmés par rapport aux élections et le duel Biden versus Trump, aujourd'hui, ils se questionnent plutôt si tous les candidats possibles, dans le champ et de l'autre, ces deux sont les meilleurs. D'un côté, Donald Trump, et on ne parle même pas de son mandat, a eu énormément de problèmes avec la justice après son départ de Washington DC. Il est impliqué actuellement dans au moins 5 procès, en civil et 4 criminels. L'affaire civile qui a reçu en véridite en février, qui oblige Trump à payer 355 millions de dollars pour avoir gonflé sa fortune pour bénéficier de taux plus intéressants auprès des banques. Il y a encore 2 procédures criminelles par rapport aux fraudes électorales, une autre assez dure concernant des documents secrets trouvés dans sa résidence à Mar-a-Lago et encore une autre pour un pot de vin payé pour cacher ses relations extra-conjugales. Pourtant, les tribunaux américains ne peuvent pas empêcher les candidats, seulement le Congrès a ce pouvoir.
Bizet, pour Donald Trump, la route, on le voit, n'est pas aussi tracée qu'il l'aurait voulu, qu'il l'aurait souhaité. Hein.
Exactement, Philippe, car les calendriers judiciaires, comme disait notre collègue, peuvent jouer en défaveur pour Donald Trump. Au moins un tiers des électeurs républicains interrogés lors des primaires ont affirmé qu'il ne soutiendrait pas un candidat condamné en pénal. Selon Alyssa Farah Griffin, directrice de la communication de la Maison-Blanche, la campagne de Nikki Haley, même si elle a décidé désormais de se retirer, a mis en lumière la position bancale et affaiblie de Donald Trump au sein du Parti républicain et même plus largement au sein de l'électorat américain. Dans les sondages de sortie de urne, plus des 2/3 des électeurs de Nikki Haley en Caroline du Sud, dans l'Iowa et dans New Hampshire, ont affirmé que Donald Trump ne pourra pas compter sur leur voix lors de scrutin en novembre. Et pour le moment, Nikki Haley n'a pas encore appelé ses électeurs à voter pour Donald Trump, mais elle a en revanche déclaré que Donald Trump devrait mériter les voix qu'elle a obtenues lors de la primaire. C'est pour cela, Philippe, que le camp démocrate mise beaucoup sur le discours de Joe Biden au Congrès afin de conquérir les électeurs modérés.
Katharina, est-ce qu'il est possible que beaucoup d'Américains, finalement, le 5 novembre prochain, choisissent de ne pas aller voter?
German Almeida dit que l'abstention, c'est une possibilité. Mais Biden et Trump continuent à polariser beaucoup l'électorat. On va l'entendre.
Ah, essa é uma pergunta que não sabemos. Eu acho que, perante estes dados, isso faria sentido, pensar isso. No entanto, como são dois candidatos muito polarizados...
Alors, quel est son avis?
En fait, il nous rappelle que les dernières élections 2020 ont été les plus participées depuis un siècle aux États-Unis. Donc, Joe Biden est le président ayant bénéficié de plus larges scores depuis un siècle et Trump, bien qu'ayant perdu l'élection, a eu plus de voix que tous les présidents américains sur 100 ans. On parle là du nombre de voix exprimées, bien sûr.
Concernant cette élection, en cette journée du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, posons la question justement des femmes. Elles sont où, les femmes, dans ces élections américaines?
En fait, depuis cette semaine, depuis ce Super Tuesday, elles sont absentes. Nikki Haley était la dernière candidate féminine en lice pour arriver à la Maison-Blanche, mais elle s'est retirée après le Super Tuesday. German Almeida dit qu'elle est encore un espoir pour 2028 et qu'elle a fait un parcours très intéressant.
Sim, de longe Nikki Haley é quem está mais bem colocada nesse aspecto, porque apesar de ter desistido, a verdade é que chegou mais longe do que eu imaginava até que chegasse.
Ela tem uma outra femme politique.
Voilà, il y en a plusieurs. Par exemple, la démocrate Gretchen Whitmer, gouverneure du Michigan, qui au cas où Biden ne s'était pas lancé, serait une possible remplaçante. Le Michigan, c'est un des plus importants États pour les élections et ils ont voté pour Trump en 2020. Encore pour les Républicains, il y a une jeune sénatrice, Kathy Britt, avec beaucoup de visibilité. Elle était la sénatrice qui a répondu au discours de l'État nation hier soir pour Joe Biden et Dewood, ses 42 ans, la plus jeune femme sénatrice du côté républicain, a dit que le président est un homme avec des capacités très diminuées.
Autre donnée à prendre en compte pour ce scrutin du mois de novembre, c'est la situation internationale. On a parlé de l'Ukraine tout à l'heure. Il y a aussi la guerre israélienne dans la bande de Gaza qui crée des difficultés. Alors, pour le camp démocrate, Pizet.
Oui, Philippe, le soutien à l'Israël de l'administration Biden semble jouer de plus en plus contre la candidature du président sortant. Beaucoup veulent sanctionner le candidat Biden en novembre prochain pour ne pas avoir suffisamment empêché l'Israël. Pour certains, étant le plus grand allié d'Israël, les États-Unis auraient dû user de ses influences, notamment concernant les livraisons d'armes à l'Israël. Jeudi, quelques heures avant le discours sur l'état de l'Union du président Biden, des dizaines de personnes se sont rassemblées à Washington et dans plusieurs grandes villes comme Los Angeles ou Boston pour exhorter le président Biden d'œuvrer en faveur d'un cessez-le-feu permanent dans la bande de Gaza et faire davantage pour limiter les attaques israéliennes dans l'enclave palestinienne. Et face à ces difficultés, Philippe, nous constatons que la position de l'administration Biden semble amorcer un recul ces derniers jours. La vice-présidente Kamala Harris a fait un discours en ce sens, en évoquant la souffrance du peuple palestinien et en appelant un cessez-le-feu.
Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces élections aux États-Unis. On aura bien évidemment l'occasion d'en reparler dans les prochaines semaines et les prochains mois. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
20 часов в Париже.
Париж, 20 термометров.
Да-да, Сехран, Писуэко, Сиде.
Accent du Monde. Philippe Le Caplain.
Nous sommes donc le 8 mars, je le disais, en cette journée internationale du droit des femmes. Intéressons-nous à ce que vivent les Russes avec vous, Elsa Vidal. Tout d'abord, le 8 mars, en Russie, ne se limite pas à cette célébration.
Non, aujourd'hui, le 8 mars, c'est avant tout une grande fête laïque, héritée de la période soviétique, et un jour férié. En cette année, c'est même l'occasion d'un week-end de 3 jours, généralement très apprécié par les Russes. C'est aussi une fête commerciale, puisqu'on voit les ventes de fleurs et de chocolat s'envoler pour atteindre des records. Généralement, elles doublent ou elles triplent. Alors, l'histoire du 8 mars est quand même assez intéressante parce qu'elle mêle à la fois l'histoire des États-Unis et celle de l'URSS. L'origine se retrouve en 1908, alors que 15 000 femmes américaines défilent à New York et réclament une réduction du temps de travail. Un slogan et une demande qui sera reprise l'année suivante par le Parti socialiste américain, alors très puissant, lors de la première journée nationale de la femme. Un peu plus tard, c'est Clara Zetkin, la militante communiste et défenseur du droit des femmes, qui suggère l'instauration d'une journée internationale de la femme en 1910 à Copenhague, et cette demande ne se concrétisera en Russie. Une première fois en temps de guerre en 1917, les femmes russes réclamant du pain et de la paix. Et puis un peu plus tard, elle deviendra officiellement la date en Russie de la célébration de la Journée internationale de la femme. Et l'ONU s'en emparera en 1975 officiellement pour célébrer cette journée à l'échelle mondiale.
Alors, est-ce que les droits des femmes en Russie constituent aujourd'hui une priorité pour le gouvernement russe ?
Hélas non, Philippe, ou alors dans un cadre bien particulier, celui d'une domination patriarcale réaffirmée plus que jamais. En 2021, la Russie était d'ailleurs le seul pays membre du Conseil de l'Europe à ne pas s'être doté d'une législation qui pénalisait les violences faites aux femmes, ce qui a amené d'ailleurs la CEDH à se positionner très souvent sur des affaires, notamment des affaires à très fort retentissement. Je pense notamment à celle de Margarita Gracheva, cette jeune femme de 26 ans à l'époque, où en 2017, son mari, la soupçonnant d'infidélité et dont elle s'était déjà plainte auprès des autorités, l'a emmenée en forêt pour lui couper les mains à la hache avant de la déposer aux urgences. La Cour européenne des droits de l'homme a donc pu se saisir de cette affaire et a condamné l'État russe à lui payer 376 000 euros de dommages et intérêts. Mais le cas de Margarita Gracheva est loin d'être un cas isolé, puisqu'une enquête menée en 2018 par un consortium d'ONG de défense du droit des femmes et par le quotidien Novaya Gazeta a établi qu'environ 61 millions de femmes en Russie confiaient avoir été battues par leurs partenaires. Et loin de soutenir les propositions de loi criminalisant ces violences, le président Poutine lui-même s'est investi contre des initiatives prises en ce sens en 2017. La même année, soutenant le président, la sénatrice Mizulina déclarait même que lorsqu'un homme bat sa femme, il n'y a pas d'offense, car s'il y avait une offense, cela humilierait l'homme. C'est pourquoi ce sont des organisations de la société civile qui combattent ce fléau, des organisations emmenées par des juristes comme Aliona Popova, Anna Rivina, la fondatrice de l'ONG Non à la violence, ou encore l'avocate Marie Davtian, ou encore la directrice du refuge d'urgence pour les femmes comme Véronique Antimonique.
On ne peut évoquer les droits des femmes et la Russie sans parler de ce qui se passe, bien sûr, dans l'Ukraine en guerre.
Absolument. L'Ukraine en guerre, c'est d'abord un lieu où le viol se pratique comme une arme de guerre. Et c'est effectivement ce dont nos confrères de France 24 ont témoigné en octobre 2022 pour la première fois. Et pour rendre compte de la prise de position de l'envoyée spéciale des Nations Unies contre les violences sexuelles, Pramila Patten. Celle-ci était si choquée par les violences qui s'étaient passées dans les zones d'occupation russe qu'elle avait tenu à prendre position, et elle avait rappelé également que le nombre de victimes osant porter plainte témoigner ne constitue que la part émergée de l'iceberg, et c'est aussi ce dont témoignent les habitants des régions désoccupées après le départ des troupes russes. À cet égard, le documentaire récemment sorti de Manon Loiseau et de Xenia Bolchakova sur les traces des bourreaux est à voir.
Et qu'en est-il du droit à l'avortement en Russie, en ayant en tête que l'URSS fut le premier pays à légaliser l'IVG? C'était il y a quasiment un siècle, en 1925.
Absolument, Philippe. Alors, le droit à l'avortement est encore protégé dans la loi russe, mais il est, lui aussi, menacé pour servir la politique nataliste du président. Et c'est un fait assez particulier, propre à la Russie. Dans les pays dont on a pu observer une tendance conservatrice sur les droits des femmes, la Pologne ou les États-Unis, l'avortement est généralement considéré en rapport avec les questions de vie et de le rapport au fœtus. En Russie, c'est tout à fait différent. C'est dans une perspective démographique. Il faut savoir que la Russie voit sa population décroître, et le président Poutine s'est engagé dans une réflexion sur l'avortement dans cette perspective, alors qu'on sait très bien que les droits à l'avortement n'entraînent pas une baisse démographique. Pourtant, il y a une réflexion en cours depuis novembre dernier, et certaines régions ont commencé déjà à rendre moins facile l'avortement dans les cliniques privées.
Elsa Vidal, je signale que vous publiez chez Robert Laffont un livre intitulé « La fascination russe ». En France, après le vote solennel lundi dernier, la cérémonie officielle a eu lieu ce matin en plein cœur de Paris, au Palais Royal. La France est devenue le premier pays au monde à avoir inscrit dans sa constitution le droit garanti à l'IVG. Justement, on vient d'en parler, pour les femmes. Et c'est dans ce contexte, Pizemam, que la présidente de l'Assemblée nationale française invite à Paris plusieurs de ses homologues femmes étrangères, dont la présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne.
Oui, en effet, Philippe, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, cette année, Mme Jaëlle Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale française, a invité 25 présidentes des assemblées nationales étrangères, dont Mme Khun Sodari, présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne. C'est aussi la première fois dans son histoire du Cambodge que le Cambodge a une femme présidente de l'Assemblée nationale. Cette première rencontre à Paris a été organisée dans un cadre d'échange des regards sur les droits des femmes afin de fixer quelques grandes lignes ensemble pour améliorer les conditions de femmes. Comme vous disiez, Philippe, la France est devenue le premier pays au monde d'avoir inscrit dans sa constitution le droit à l'IVG. Donc pour cette occasion, la France veut envoyer ce message au monde pour que ce droit soit garanti à jamais pour les femmes.
Alors justement, qu'en est-il de ce droit à l'avortement pour les Cambodgiennes ?
Alors, il y a un domaine où on peut féliciter le progrès au Cambodge, c'est sur ce point, Philippe. Une loi a été adoptée en octobre 1997 pour protéger les femmes qui souhaitent recourir à l'interruption volontaire de grossesse. Écoutons Mme Lau Kheng, présidente de la Commission sociale et d'égalité des sexes au Parlement cambodgien, qui était présent au Palais Bourbon hier. Alors, elle disait que la loi sur l'IVG a été adoptée le 6 octobre 1997. À l'époque, nous étions un pays très pauvre et c'était la période de baby boom au Cambodge. Il y avait à cette époque environ 200 000 femmes par an qui cherchaient à se faire avorter. Les pratiques illégales des avortements sont très dangereuses et donc il fallait encadrer cette pratique afin de protéger ces femmes.
Alors précisément, que stipule la loi au Cambodge ?
Alors écoutons encore ce qu'elle nous explique, Mme Lau Kheng. Alors, selon la loi, les femmes au Cambodge peuvent librement recourir à la pratique de l'IVG par un professionnel de santé pendant période des 12 premières semaines de grossesse. Au-delà de cette période, l'avortement doit être soumis à des conditions, notamment si on constate la malformation de fœtus, un risque grave d'handicap ou bien la santé de la mère soit en jeu. Dans les cas de viol aussi, Philippe, les femmes victimes ont le droit au recours à l'IVG.
Alors quand on voit qu'en France, l'IVG est inscrit dans la Constitution, est-ce que le législateur au Cambodge se dit qu'il pourrait faire de même ?
Alors au micro d'AFI, Mme Lau Kheng s'est exprimée un sentiment d'étonnement car elle ne pensait pas que le droit à l'IVG en France soit aussi fragile et qu'il nécessite la protection dans la loi suprême car elle pensait que la France était un pays de liberté.
On l'écoute encore. Oui.
Alors,
aidez-nous à comprendre là encore.
Alors, elle disait qu'au Cambodge, la protection des femmes contre les risques des avortements sauvages a toujours été une priorité. Pour le moment, nous n'avons pas de projet d'inscrire ce droit dans la Constitution, mais nous continuons de surveiller l'évolution de la société. En tout cas, nous avons une loi efficace déjà pour garantir ce droit aux femmes.
Bizema de la rédaction cambodgienne de RFI. Les Portugais votent ce dimanche pour désigner un nouveau gouvernement après la chute du socialiste António Costa à cause d'un scandale de corruption. Catarina Falcao, vous étiez au Portugal pour couvrir cette période de campagne électorale. Alors avant toute chose, expliquez-nous comment le Premier ministre socialiste António Costa a pu laisser filer sa majorité absolue.
Voilà, je vous donne quelques astuces. Ça peut vous arriver quand vous cachez de l'argent au mauvais endroit. Je m'explique. En 2022, le Parti socialiste avait gagné les élections avec une majorité absolue. Le Portugal était même perçu comme étant le dernier havre de paix de la gauche en Europe. Et rebelote, tout était perdu en novembre dernier. La police a amené différentes perquisitions dans des endroits du pouvoir. Un de ces endroits, c'était le cabinet du Premier ministre. Oui, vous m'entendez bien. Et la police a trouvé 78 000 euros cachés entre livres et bouteilles de vin. Il y a 4 suspects de corruption entre ministres, ami personnel du Premier ministre et son chef de cabinet. Pour l'instant, il n'y a aucune accusation contre le Premier ministre, mais il a présenté sa démission et le président l'a acceptée.
Et les Portugais, ils en pensent quoi tout ça?
Ils estiment que c'est ridicule. Ils pensaient avoir voté pour la stabilité du pays pendant 4 ans et ils se retrouveront à nouveau au bureau de vote dimanche. Cet épisode a fait augmenter les inquiétudes des Portugais face à la corruption, comme a expliqué Jorge Máximo, membre de la direction de l'organisation Transparency International au Portugal.
Eu estava a ouvir que uma sondagem apontava por ser a justiça e a corrupção eram os quarto e quinto temas mais.
Il nous dit que les sondages montrent qu'actuellement, après les sujets classiques comme la santé et l'éducation, la justice est une des priorités des Portugais et voilà la corruption en soi.
Est-ce qu'au bout du bout, ça laisse une plus grande place au populisme qui ne cesse de monter partout en Europe ?
Énormément. Un parti qui s'appelle exactement Chega, ou Ça suffit, ou si vous voulez aussi Assez, en portugais, continue à monter dans les enquêtes d'opinion. C'est un parti classique d'extrême droite, contre l'immigration, contre les libertés sociales, et bien sûr, pour un combat très fort à la corruption. Mais le chercheur Luís Sousa rappelle que ce combat est vide, et avec des mesures qui, la plupart du temps, sont contradictoires. Nous allons l'entendre.
O combate à corrupção transformou-se também em arma de arremesso. Sem dúvida, há uma nova formação partidária.
Quelle est l'analyse de Luís de Sousa?
En fait, il nous dit que la corruption est devenue comme une arme. Les sondages donnent à Chega autour de 16%, avec beaucoup de politologues qui disent que ça pourra être en effet en dessous de ce seuil-là. En tout cas, les dégâts sont déjà visibles. Dans un moment où le Portugal reçoit une énorme vague d'immigration venue plutôt du Brésil, mais aussi de l'Asie, comme le Bangladesh, ce parti parle de la théorie du remplacement, qu'on connaît très bien ici parce qu'elle était diffusée par Éric Zemmour, et aussi fait une association directe entre l'immigration et violence. Tout ça a fait augmenter les plaintes pour racisme et xénophobie au Portugal et a crispé le quotidien de beaucoup d'immigrants, comme nous raconte Ana Paula Costa, vice-présidente de la Maison du Brésil à Lisbonne.
A prática do discurso, obviamente, tem consequências reais na vida das pessoas.
Elle nous dit que le quotidien des Brésiliens, la plus grande communauté d'étrangers au Portugal, environ 350 000, est devenu très pénible, avec beaucoup de commentaires déplacés, et que les gens se sentent autorisés à lancer tout le temps des commentaires un peu offensants, genre « rentre chez toi ». Elle dit que nous sommes en présence d'un mouvement anti-immigration organisé et très mobilisé au Portugal.
Avec 16% des intentions de vote, Chega, le mouvement Ça suffit donc, ne peut pas donc gagner les élections de dimanche.
Effectivement non. Si on regarde les derniers sondages, c'est la coalition de centre-droite qui a plus de possibilités de gagner. Ils sont plutôt contre une coalition élargi avec Chega, mais certains membres sont pour. Hein. Même les socialistes peuvent encore prétendre à gagner, mais ça veut dire une coalition à gauche avec les indécis. Tout peut arriver dimanche.
Alors je disais, vous étiez au Portugal ces derniers jours, qu'est-ce qui va peser finalement sur ce scrutin d'après vous?
Je vous dis franchement, après toutes les interviews que j'ai fait, je pense que c'est le niveau de vie. Les prix au Portugal ont augmenté énormément par rapport au niveau de vie là-bas, étant donné que le SMIC là-bas est de 740 €. Surtout, par rapport au logement. Un appartement d'une pièce à Lisbonne peut coûter jusqu'à 2 500 €. Et la moyenne nationale peut aller jusqu'à 1 200 €. J'ai parlé avec Ana Beatriz, une jeune portugaise de 24 ans, et même si elle a un bon salaire pour les standards portugais, elle n'arrive pas à se loger.
J'ai un problème très grave qui est le problème de l'habitation.
Et
elle me dit qu'en fait, même avec un très très bon salaire, elle ne demande même pas une maison, hein. Elle demande une toute petite maison.
Et donc, vous avez également rencontré d'autres Portugais qui vous ont parlé donc, de cette précarité économique. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui leur viennent à l'esprit?
En fait, je vous dis déjà que le logement, c'est vraiment un gros problème. Et c'est incroyable comment, dans un petit espace de temps, genre 5 ans, tout a tellement changé au Portugal. Les gens n'arrivent plus à se loger à des villes comme Lisbonne ou Porto. Donc, ils partent genre à 50, 70 km. C'est sûr que Lisbonne et Porto sont des villes très agréables, mais les gens aimeraient bien y habiter, et pas seulement, je suis désolée, mais les étrangers, notamment, on sait très bien, les Français là-bas.
Oui, il y a une pression, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de Français qui vont s'installer pour leur retraite là-bas.
Et les ça Américains fait, aussi.
Et par exemple, ça fait monter les prix de
l'immobilier. En fait, il y a une boule immobilière au Portugal et ça peut en fait exploser à n'importe quel moment.
Et donc, ça va peser dans le scrutin d'après-demain, une élection, des élections législatives qui ensuite débouchent sur la nomination d'un gouvernement et d'un Premier ministre. Ce sera à suivre, bien sûr, sur les antennes de Radio France Internationale. C'était Accent du Monde, réalisé ce soir par Laurent Philippot.